Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonjour aux auditeurs, aux auditrices de Principe Actif. On est donc le mardi 26 janvier, 19h, et c'est le retour pour la première fois de l'année de l'équipe d'Amnesty International Évreux pour notre émission sur les droits humains. Avec moi au micro ce soir, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Il y a Françoise.
Bonsoir.
Et il y a Ronan qui nous avait abandonné pour la technique le mois dernier, le lâcheur, mais qui est revenu ce soir.
Bonsoir. Oh, une fois dans l'année, une émission dans l'année, c'est pas trop
mal. Il était en vacances, on lui pardonnera. Bien sûr, on est au mois de janvier. Les vœux se terminent le 31 janvier, donc on est le 26. On peut encore effectivement souhaiter à tout le monde...
Bonne année.
Bonne année. Et puis, bonne santé et tout bien pour l'année 2016.
Oh oui, et bonne année. Et cette année, monsieur le maire d'Évreux, j'espère que vous aurez le temps de répondre à notre courrier, vous savez, pour l'accueil des Syriens, des migrés syriens à Évreux. On attend toujours votre réponse.
Ouais, je crois qu'on avait envoyé la première lettre. On a envoyé deux. Je crois que la première, c'était au mois de juin de l'année dernière.
Tout à fait.
2015. Ouais, c'est vrai que 6-7 mois pour répondre, c'est un petit peu long, monsieur le maire. Mais bon, bref, vous êtes forcément très occupé. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est pour notre émission, pas mal de sujets. On va vous parler du Forum économique de Davos, vous allez comprendre pourquoi. On va vous parler de la République démocratique du Congo. On va vous parler de tests osseux, c'est Claire-Lise qui va vous en parler. De bonnes nouvelles, bien sûr, c'est de la spécialité à Ronan. On va écouter un petit peu de musique entre deux, bien sûr, parce que malgré tout, il faut aussi écouter de la musique. Et puis, on veut dédier cette émission. Je crois que c'est la première fois qu'on le fait. On n'a encore jamais dédié une émission.
Non, si.
On l'a déjà fait.
Ah, on l'a déjà fait.
Pour la russe, comment elle s'appelait?
Anna, tout à fait.
Anna Politkovskaya.
Ah, tu perds la mémoire, comme.
Ah, dire. Bah désolé. Alors, dans mes archives personnelles, effectivement, j'avais plus ça en tête. Mais on va dédier l'émission aujourd'hui. Vous avez sans doute entendu aux infos. Il y a une photographe franco-marocaine qui s'appelle Leïla Alaoui.
Qui s'appelait.
J'ai du mal à la mettre au passé. Qui s'appelait Leïla Alaoui, qui faisait un reportage photo dans le cadre d'une mission pour Amnesty International et qui a eu le malheur de se trouver en face le café où il y a eu les attentats au Burkina Faso, à Ouagadougou, il y a très peu de temps, là, au début du mois, et qui est morte, qui a reçu une partie d'une rafale de Kalachnikov. Et qui est morte quelques jours après. Donc, elle travaillait pour Amnesty, et comme quoi, effectivement, travailler pour Amnesty dans certains pays, et même partout dans le monde, c'est pas forcément de tourpeau. Donc, bien sûr, on est particulièrement touché. Et je vais vous lire simplement une partie du communiqué qui a été mis en ligne sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, pour ceux qui ne nous écoutent pas régulièrement, ces derniers jours, et pour vous rappeler, effectivement, ce qui a été dit et écrit par rapport à elle. Leïla était une photographe franco-marocaine talentueuse qui était partie dans le cadre d'une mission d'Amnesty International au Burkina Faso pour réaliser un reportage photo sur les droits des femmes. Et elle est morte avec une autre personne qui s'appelait Mahamadi Ouedraogo et qui était le père de 4 enfants. C'est aussi un grand ami d'Amnesty International. Il accompagnait depuis 2008 le personnel et les conseillers venus en mission dans le pays. Nos pensées vont à son épouse, ses enfants et à sa famille. Il va nous manquer terriblement. Mahamadi et Leïla étaient garés devant le café Cappuccino en face de l'hôtel Splendide lorsque l'attentat a eu lieu. La ville de Ouagadougou n'est pas considérée comme une destination à haut risque et Leïla était soutenue par ses collègues de notre bureau national au Burkina Faso durant sa mission et était accompagnée par Amahadi, ressortissant du Burkina Faso. Amahadi a trouvé la mort dans sa voiture. Leïla a reçu 2 balles, une dans la jambe et dans le thorax, avant d'être rapidement conduite à l'hôpital. Après avoir été opérée, elle se trouvait tout d'abord dans un état stable. Les préparatifs pour son rapatriement sanitaire étaient en cours, mais elle a succombé à une crise cardiaque. La priorité absolue d'Amnesty International est d'apporter le meilleur soutien possible aux familles de Mahamadi et de Leïla. Des représentants d'Amnesty se trouvent à l'hôpital et assurent la liaison avec sa famille, les médecins et tous les organismes nécessaires. nous condamnons l'attaque violente contre les civils à Ouagadougou qui a tué et blessé des dizaines de personnes de différentes nationalités et religions. Bien sûr, tout ça fait suite à ce qui s'est passé en France, enfin à tout ce qu'on entend par rapport aux attentats. Et ça fait un petit peu un lien, quand on réfléchit bien, avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui, tout de suite. Là, c'est un rapport d'Oxfam. Il y a en ce moment le sommet économique de Davos qui a lieu tous les hivers, c'est en Suisse, où les différents responsables économiques du monde se retrouvent. C'est entre, je dirais, de gens de bonne compagnie, si on peut dire, parmi les plus riches du monde. Et pour parler de l'état de l'économie, on peut se demander pourquoi parler de l'économie dans une émission d'Amnesty. Eh bien, Oxfam, une association qu'Amnesty connaît bien, on collabore régulièrement avec les bureaux d'Oxfam à travers le monde sur différentes actions. Oxfam, dont le but est de travailler sur la pauvreté dans le monde et sur les déséquilibres entre riches et pauvres, a publié un rapport dans le cadre de la préparation de ce comité à Davos, et qui dit la chose suivante. Je vais vous lire juste le début, hein, parce que le rapport est très volumineux, mais juste le début, mais c'est suffisamment parlant. La crise mondiale des inégalités atteint de nouveaux sommets. Les 1% des plus riches possèdent désormais davantage que les 99% restants. Ils font usage de leur pouvoir et de leurs privilèges pour biaiser le modèle économique et creuser le fossé entre eux et le reste de la population. Un réseau mondial de paradis fiscaux a permis aux plus riches de cacher quelque 7 600 milliards de dollars. La lutte contre la pauvreté est vaine si la crise des inégalités n'est pas résolue. Le fossé entre les riches et les pauvres est le plus abyssal que jamais. Le Crédit Suisse a récemment révélé que les 1% les plus riches avaient désormais accumulé plus de richesses que le reste de la population mondiale, soit une année plus tôt que ce qu'avait prédit Oxfam dans une communication largement diffusée en amont du Forum économique de l'année dernière. Parallèlement, les richesses détenues par la moitié la plus pauvre de l'humanité ont chuté de 1 000 milliards de dollars au cours des 5 dernières années. Il s'agit de l'ultime démonstration que nous vivons dans un monde où les inégalités ont atteint un niveau sans précédent depuis plus d'un siècle. Le document « Une économie au service des 1% », c'est ce que le rapport ici, explore le comment et le pourquoi d'une telle situation et expose de nouveaux éléments troublants sur une crise des inégalités qui échappe à tout contrôle. Alors quelques chiffres, hein, je vous rassure, c'est assez bref. En 2015, 62 personnes possédaient à elles seules les mêmes richesses que 3,5 milliards de personnes, soit la moitié la plus pauvre de l'humanité, contre 388 personnes qui possédaient la même chose en 2010. La fortune des 62 personnes les plus riches du monde a augmenté de 44% entre 2010 et 2015. Si vous regardez vos bulletins de salaire, c'est un petit commentaire personnel, ou vos revenus, est-ce qu'ils ont augmenté de 44% en 5 ans? J'en doute fort.
Sans regarder, je te dis non.
Ben voilà. Soit une hausse de plus de 500 milliards de dollars pour s'établir à 1760 milliards de dollars. Les sommes, d'ailleurs, ça devient inconcevable. Je ne sais pas ce que ça représente. Parallèlement, les richesses de la moitié la plus pauvre de l'humanité ont diminué de plus de 1 000 milliards de dollars au cours de la même période, soit une chute de 41%. Depuis le début du XXIe siècle, la moitié la plus pauvre de la population mondiale a bénéficié seulement de 1% de l'augmentation totale des richesses mondiales, alors que 1% des plus riches se sont partagés la moitié de cette hausse. La France n'échappe pas à cette tendance, puisque les 10% les plus riches ont accaparé 54% de l'augmentation des richesses entre 2000 et 2015. Le revenu annuel moyen des 10% les plus pauvres dans le monde a augmenté de moins de 3 dollars en près d'un quart de siècle. Autrement dit, le revenu journalier a augmenté de moins d'un cent, un cent de dollars bien sûr, par an. L'exacerbation des inégalités économiques est néfaste pour l'ensemble de la population car elle sape croissance et cohésion sociale. Les conséquences pour les personnes les plus pauvres sont particulièrement désastreuses. Donc, toute une suite de commentaires et de tableaux. Encore une fois, dans ce rapport, vous pouvez le lire dans l'intégralité hein, sur le site d'Oxfam. Hein, vous tapez Oxfam sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous aurez le lien pour accéder à leur site. Je ne l'ai plus en tête. Mais je vais vous lire encore un petit extrait et vous dire pourquoi je vous en parle aujourd'hui. « Nul ne peut nier que les grands gagnants de l'économie mondiale actuelle sont les plus fortunés. Notre modèle économique est fortement biaisé en leur faveur, une tendance qui semble s'intensifier. » En lieu et place du ruissellement attendu sur les couches inférieures de la population, les revenus et les richesses sont aspirés à un rythme alarmant par cette élite. À ce stade, c'est un réseau de paradis fiscaux toujours plus élaboré et soutenu par un panel de gestionnaires de patrimoine qui garantit que cet argent reste hors de portée des citoyens ordinaires et de leurs États. D'après une récente estimation, 7 600 milliards de dollars, soit plus que le produit intérieur brut combiné de l'Allemagne et du Royaume-Uni sont actuellement détenus sur des comptes offshore par des particuliers. Alors, quand on dit compte offshore, on va poser une question à Renan. Tiens, compte offshore, ça se trouve où les comptes offshore? T'as une idée?
Les comptes offshore.
Offshore, oui, dont je viens de parler, qui sont détenus par les gens les plus riches en majorité.
C'est pas Obama, ces trucs comme ça.
Voilà, c'est dans les paradis fiscaux. Et les paradis fiscaux, ça sert effectivement à mettre de côté de l'argent. Vous avez suivi l'affaire du ministre, je ne sais plus dont il s'appelait, le ministre français, là, qui s'est fait prendre la main dans le sac puisqu'il avait un compte non déclaré en Suisse, le ministre du budget.
C'était Cahuzac.
Cahuzac, merci Renan, c'était ça. Donc il s'est fait prendre la main dans le pot de confiture alors qu'il était censé lutter contre l'évasion fiscale et que lui-même s'y adonnait. Donc voilà, donc c'est de l'argent, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est pour ça que je vous en parle, c'est de l'argent qui devrait être reversé aux États. C'est de l'argent des impôts. Les États se financent avec les impôts. Ça, c'est vrai dans tout le monde, partout dans le monde. Et les États n'ont pas d'autres sources de financement, ou du moins en grande partie, que les impôts. Quand on paye des impôts, c'est aussi pour financer les routes, les écoles, tout ce qu'on veut. C'est moins sympa quand il s'agit de financer l'armée. Mais sinon, ça a un but social. Quand on ne paye pas les impôts, d'abord, on ne respecte pas la loi, donc ce n'est pas bien. Et quand on ne paye pas les impôts qu'on devrait payer, on se prive les États de financements sociaux. Et on prive l'État de financer correctement les écoles, par exemple, de financer correctement les besoins de la sécurité sociale et les besoins de santé de la population, etc. etc. Donc ça a des conséquences très précises en termes d'atteinte aux droits humains. Parce que si on se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et je l'ai ramené le temps que je vous la retrouve, voilà, je l'ai ramené. Il est quand même dit dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme, et là on retombe sur des textes qu'Amnesty connaît bien et utilise à longueur de temps. Dans le préambule de cette déclaration, on dit « Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. » Ça, c'est dans le préambule. Et après, il y a quelques articles. Alors, je vais vous en lire 2-3, c'est tout à fait éloquent. Article 7. « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration ou contre toute provocation à une telle discrimination. » Pour faire respecter la loi et pour protéger les gens dans leurs droits, il faut aussi qu'il y ait des possibilités financières et de fonctionnement normal de la justice. Quand on prive les États de financement par rapport à toutes ces structures-là, qui sont des structures qui dépendent directement des États, bien évidemment que ça ne peut pas fonctionner correctement. Toute personne a droit à un recours effectif, article 8, devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Et puis un peu plus loin, j'ai dû en entourer un dernier, voilà. Article 22. Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Grâce à l'effort national, à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 23, puis on va s'arrêter là. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Là aussi, il faut financer les structures d'État qui permettent ça. Article 25, toute personne a un droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Bon, inutile d'aller plus loin, il est évident que, encore une fois, si on ne respecte pas les règles du jeu, je dirais, c'est-à-dire que si les gens qui ont les moyens, parce qu'ils ont des fortunes colossales, ou les entreprises qui sont derrière, ou les structures, on ne va pas forcément parler que d'individus, mais les différentes structures qui ne jouent pas le jeu, qui planquent l'argent dans des paradis fiscaux alors qu'ils devraient le reverser en partie seulement, à l'État dont ils dépendent. Eh bien, ils ne permettent pas le fonctionnement de ça. Ce sont donc des gens, et ils sont actuellement en réunion à Davos, certains d'entre eux, ce sont donc des gens qui s'attaquent aux droits fondamentaux des autres. Il faut appeler un chat un chat. Donc voilà. Encore une fois, si vous voulez ce rapport, vous pouvez le consulter. Il est très très bien fait. Je n'ai pas lu toutes les 100 pages, mais j'en ai lu une bonne partie. Et le résumé là, que j'ai sous les yeux est beaucoup plus court, mais suffisamment éloquent. Et encore une fois, on sera amené, je pense, à reparler de ça. C'est aussi des campagnes de la pauvreté qui intéressent de plus en plus Amnesty dans son évolution. Et on sera amené à reparler de ça. On en a déjà parlé. Mais encore une fois, on ne peut pas agir pour défendre les droits de l'homme si les États n'ont pas les moyens pour faire respecter les lois démocratiques et le fonctionnement normal d'un État démocratique. Si on n'a pas les moyens pour le faire, ça ne marchera jamais. Voilà. On avait dit qu'on parlait, après ce petit préambule, C'était Claire Lise qui voulait vous parler de... Bah, vous le dire à vous-même.
Peut-être que... une
bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle.
Donc, une bonne nouvelle, c'est abus sexuel par des casques bleus en RCA, un premier pas vers la justice. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine a demandé aux pays ayant déployé des casques bleus d'ouvrir leur propre enquête, un signe encourageant. Donc de ce côté-là, ça bouge un peu. Je te laisse la parole, Carlis.
Donc, je vais vous parler de ce qui se passe en ce moment au niveau des migrants en Europe et notamment au Danemark. Donc, tous les jours, des hommes, des femmes et des enfants prennent la décision de quitter leur foyer, leur lieu de résidence et leur pays. Fuir devant les persécutions, rejoindre des proches, chercher du travail. Migrants ou réfugiés, ils ont des droits au-delà des frontières. Nos actions ont pour but de prévenir et de dénoncer les violations des droits des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés. Elles ont pour objectif de convaincre les États à prendre les mesures nécessaires pour que les personnes soient protégées. Actuellement, au Danemark, le Parlement ne doit pas adopter une loi cruelle pour les réfugiés. En fait, le Parlement danois a débattu jeudi 21 janvier 2016 de la possible confiscation des biens des réfugiés de guerre et de l'interdiction de réunir leur famille au Danemark avant un délai de 3 ans.
Oh là là.
La procédure pour pouvoir réunir leur famille pouvant elle-même prendre plusieurs années pour aboutir. Donc une telle législation porterait atteinte aux droits de personnes vulnérables, déjà durement frappées par la guerre, et qui vivront dans l'angoisse du devenir de leurs proches et bloqués dans des zones de conflit ou dans des camps de réfugiés. Donc le gouvernement danois propose au Parlement de valider une série d'autres mesures restreignant les droits des réfugiés, parmi lesquelles la confiscation de leurs biens à leur arrivée. Je sais pas, mais dans l'histoire, ça rappelle
quelque chose. Oui, tout à fait. Oui.
La réduction de la durée des permis de séjour temporaire. Alors, rassurez-vous, ça existe aussi en France. Hein. L'introduction de frais pour le dépôt des dossiers de regroupement familial, environ 900 euros par demande à l'heure actuelle. Rassurez-vous, ça existe aussi en France. Et l'obligation d'acquitter le coût du trajet des proches concernés jusqu'au Danemark. Alors, on leur confisque d'abord leurs biens, mais s'ils arrivent à faire venir leur famille, il faut qu'ils fassent payer aussi le trajet pour amener leurs proches jusqu'au Danemark. Proches, oui. Alors, tout ceci n'est que la suite d'une entreprise de dissuasion des réfugiés qui avait commencé en novembre 2015... avec l'adoption d'une loi permettant à la police d'arrêter les demandeurs d'asile et les migrants sans en référer à un juge. Donc voilà. Donc c'est quand même inquiétant parce que tout ça, ça donne un peu la mesure de ce que le flux migratoire et toutes les personnes qui arrivent pour fuir les zones de conflit, toutes les personnes qui arrivent notamment d'Afrique, mais aussi d'autres pays d'Europe, ça fait peur. Et les gouvernements ont tendance quand même à faire marche arrière rapport aux libertés individuelles, aux libertés des citoyens et à adopter des choses pour se protéger et se protéger des gens qui leur font peur. Et c'est quand même désastreux. Voilà.
Tout à fait pertinent. Ça me rappelle ce que j'ai dit précédemment, là, tout à l'heure, dans mon introduction. Enfin, ça me fait un lien, du moins, qui n'est pas neutre non plus. C'est-à-dire que le fait que les États soient privés des ressources, encore une fois, sur un plan économique, des ressources dont elles devraient bénéficier, du moins privées d'une partie de ces ressources-là, dont elles devraient bénéficier, ça aboutit en fait que donc, les services sociaux se dégradent, comme on l'a dit tout à l'heure, etc., etc. Et que donc, par rapport au... Mais ça, on se rend compte, effectivement, dans nos pays, à nous, en Europe, par rapport à l'accueil des réfugiés. Encore une fois, le fait d'accueillir des réfugiés, comme a dit Claire Lise, ça fait partie de la déclaration universelle. Il n'y a pas à se poser la question. C'est un droit pour ces gens-là et une obligation pour les États de les accueillir. Et on demande pas l'avis des gens par rapport au texte. Mais ce qui se passe, c'est que comme la population ne bénéficie pas des services sociaux dont elle devrait bénéficier, la population autochtone, je pense, des Français, des Danois, ou ne bénéficie pas de façon suffisamment importante de ces possibilités-là. Il y a une espèce de rivalité entre les gens, la partie de la population la plus défavorisée, la plus maltraitée des autochtones dans ses propres pays, par rapport à ces gens-là qui viennent. Moi, je me rappelle de choses qui ont été publiées, entre autres sur les réseaux sociaux, quand on a parlé de l'accueil des migrants, les gens disaient « on ferait mieux de commencer par s'occuper des pauvres chez nous ». Ce qui est parfaitement un faux débat, parce que de toute façon, si les États, encore une fois, avaient les financements normaux par rapport à ces gens-là, ils ne seraient pas en compétition pauvres contre migrants. Être en compétition, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais être en compétition pauvres contre migrants, c'est la pire des situations. Parce qu'effectivement, le problème n'est pas là. Les pauvres de ces pays-là devraient avoir un minimum d'aide sociale pour ne pas se sentir en compétition par rapport aux gens qui réclament l'asile. Et
oui.
Et c'est pas du tout l'inverse. Et c'est parce qu'on prive les États des ressources qui permettraient de ne pas poser les problèmes en ces termes-là que les problèmes se posent en ces termes-là. Et que donc, après, on dit, pour défendre les pays, on va faire des frontières, on va faire des murs, on va faire des choses aussi absurdes qui, d'abord, ne serviront à rien, n'auront aucune efficacité, mais qui continuent par entretenir, effectivement, la compétition entre pauvres et migrants. Alors qu'effectivement, c'est pas du tout ça. Et c'est les gens qui ont les moyens de financer les États, dont on parlait tout à l'heure, qui devraient, effectivement, être appelés à l'ordre et être de façon très autoritaire par rapport à ces États-là, pour qu'enfin les États puissent fonctionner normalement et empêcher cette compétition de l'absurde. Voilà.
On va mettre une petite pause musicale.
Tout à fait.
What's yours and what is mine? See that man holding his hand out in desperation. He don't see salvation, no God and sure no nation. See all working for the means to the end of our situation. All hoping for the day that the power see abdication and run. I said it gonna come, God. I said it gonna come. That man sitting in front of the jewelry stand, he can't walk no more, he just too damn poor. See that man holding his eyes from the glaring sun, he ain't got no one, his hopes all been undone. See all working for the means to the end of our situation. All hoping for the day that the powers see application and run. I said it gonna come now. I said it gonna come now. Situation. We are hoping for the day that the powers see abdication and run. I said it gonna come down. I said it gonna come. Mm-hmm. that man. See that man. See that man. See that man. No, brother, if you can.
Nous retournons sur l'antenne de Principe Actif, donc l'émission d'Amnesty International sur les droits humains, comme tous les mois, comme le dernier mardi de chaque mois. Donc voilà, on est de retour au micro. Ce qu'on vient d'écouter, c'est un morceau de Melody Gardot, qui est une chanteuse de jazz, rock, blues américaine. Qui parle très bien français d'ailleurs, j'ai entendu une fois interviewer, mais ben, c'était pas le sujet du jour. Son album qui est paru l'année dernière, son dernier, et qui s'appelle, il y a un lien par rapport à ce qu'on vient de dire quand même, qui s'appelle, l'album s'appelle Currency of Man, ça veut dire la valeur de l'homme, et elle parle dans cet album des déshérités, des laissés pour compte, des gens dont les droits sont bafoués, enfin, etc. Et je vais vous lire juste, enfin, je vais vous traduire simplement rapidement juste le premier paragraphe de la chanson qu'on vient d'écouter, qui s'appelait ça va venir en anglais, donc It's Gonna Come. Ça dit « Regardez cet homme assis de l'autre côté de la frontière. Il n'a pas le temps de se demander ce qui est à lui et ce qui est à toi. Regardez cet homme qui tend les mains dans un geste de désespoir. Il ne voit pas ni salut d'aucun dieu ni d'aucune nation. » Voilà, donc bon, c'est un petit peu grave là, mais ça faisait aussi un lien par rapport à ce qui était dit avant. Ensuite, on avait dit qu'on parlait de quoi, Françoise ?
De la campagne « Stop Torture » qui s'achève. Alors cette campagne, elle a débuté en mai 2014 et elle avait pour objectif d'obliger les gouvernements du monde entier à mettre en place des garanties effectives contre la torture et à les respecter en mettant l'accent sur quatre pays. Quatre pays ont été choisis, c'est le Maroc, le Mexique, le Nigeria et l'Ouzbékistan. Alors Didier va vous expliquer ce qui s'est passé au Maroc.
Voilà, on va vous faire un petit résumé, donc on va vous faire un petit chapitre sur chaque pays. Moi, je vais vous parler donc du Maroc. En mai 2014, lancement de la campagne Stop Torture a eu un retentissement médiatique considérable au Maroc, ce qui a permis de sensibiliser la population, mais aussi de susciter le débat. Même des journaux aux tendances conservatrices se sont fait l'écho de nos recommandations. Un exemple de journal, Asaba, je ne connais pas. Novembre 2014, quelques mois après le lancement de la campagne, le gouvernement marocain ratifie le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Il doit maintenant mettre en place un mécanisme national efficace chargé de contrôler les lieux de détention. Automne 2015, dans le contexte de la réforme du Code de procédure pénale, notre travail de pression pousse la Commission nationale des droits humains au Maroc à suivre nos recommandations, notamment celles sur la présence obligatoire d'un avocat lors des séances d'interrogatoire. La Commission nationale des droits humains, donc celle marocaine bien sûr, ne se penche généralement pas sur les questions relatives à la torture, sujet très sensible au Maroc. Deuxième pays sur lequel Amnesty a travaillé, le Mexique.
Alors au Mexique, de meilleures procédures d'enquête pour combattre l'impunité. En décembre 2014, la Cour suprême publie un protocole spécial sur la torture à destination des juges et du personnel du secteur judiciaire. Ce protocole cite notamment des passages de notre rapport « Hors de toute mesure » sur la torture dans le pays. Février 2015, un juge informe Claudia Medilla, victime de torture soutenue par Amnesty International, que la dernière charge retenue contre elle, détention illégale d'armes, est abandonnée car le seul élément de preuve produit, un rapport déposé par les fusiliers marins, était un tissu de mensonges. Le juge a enfin confirmé qu'après son arrestation, Claudia a été torturée et agressée sexuellement par des militaires qui l'ont forcée à s'accuser elle-même d'infraction en relation avec des stupéfiants. Les faits avaient eu lieu le 7 août 2012 dans une caserne des fusiliers marins de l'État de Veracruz dans l'est du pays. Avant, je marchais dans la rue en pensant que j'allais être arrêtée et torturée comme avant. Mais plus maintenant, je vais marcher la tête haute et dire « je suis innocente » et j'ai toujours dit la vérité. Claudia, après l'annonce de l'abandon des charges. En août 2015, le bureau fédéral du procureur général approuve un nouveau protocole national pour enquêter sur les allégations de torture. Il est en vigueur depuis.
Alors, le troisième pays sur lequel a porté la campagne Stop Torture, le Nigeria. Et donc le titre du chapitre, c'est « La torture enfin criminalisée ». Décembre 2014, la police nigériane publie un manuel pratique sur les droits humains qui établit des standards respectés par les officiers de police et les méthodes à appliquer. En 2015, le Comité national contre la torture commence à visiter des centres de détention. En mai 2015, le gouverneur sortant de l'état du delta du Niger annonce dans la soirée du 28 mai qu'il accorde la grâce totale à Moses Akatumba. Bon, ça, on en a déjà parlé dans les émissions, dans les bonnes nouvelles, mais donc on le redit là dans le cadre de ce rapport. Moses avait été arrêté à 16 ans pour le vol de 3 téléphones portables, torturé par la police nigériane, puis condamné à mort sur la base de ses aveux obtenus sous la contrainte. Il se trouvait dans le quartier des condamnés à mort depuis 10 ans. Moses nous a écrit « Je suis bouleversé, je remercie Amnesty et ses militants pour leur immense soutien qui m'a permis de sortir vainqueur. » En juin 2015, toujours au Nigeria, les parlementaires nigérians adoptent une loi anti-torture. Celle-ci doit maintenant être examinée par le président de la République. La torture n'était jusque-là pas considérée comme un crime aux yeux du droit nigérien, ce qui est quand même assez hallucinant. Et le dernier État, donc, c'était l'Ouzbékistan, dont va vous parler, Françoise.
Alors, en Ouzbékistan, soutien et solidarité pour les victimes de torture et leurs familles. Alors, en octobre 2014, le Parlement européen adopte une résolution appelant l'Ouzbékistan à éliminer la torture et à permettre une visite du rapporteur spécial. Ce dernier n'a encore jamais été autorisé à mener une mission d'enquête dans le pays. Parce que vous savez qu'Amnesty, en général, veut avoir l'accord des autorités dans le pays pour enquêter. Novembre 2015, à l'issue du dialogue entre l'Union européenne et l'Ouzbékistan, le Service européen pour l'action extérieure appelle publiquement l'Ouzbékistan à libérer les défenseurs des droits humains emprisonnés dans le pays et condamne fermement l'usage de la torture. Les défenseurs des droits humains et les familles des victimes se sont sentis soutenus et encouragés par les actions de solidarité menées par les membres d'Amnesty. C'est ainsi que Erkin Moussaev, ancien fonctionnaire de la Défense, travaillait pour les Nations Unies quand il a été placé en détention, où il a été violemment torturé. Après 3 procès, il a été condamné à 20 ans de prison pour trahison et abus de pouvoir. Erkin, son avocat et sa famille ont porté plainte pour dénoncer ses actes et sa détention illégale. Et voici ce que le père d'Erkin a écrit en juillet 2014. « Bien qu'il ait enduré beaucoup de choses terribles, Erkin ne baisse pas les bras. Il vit dans l'espoir d'un avenir meilleur. Il s'imagine, une fois qu'on lui a rendu sa liberté, apporter lui aussi son aide et son soutien aux personnes qui ont survécu aux horreurs de l'injustice. » Donc voilà, ça a été vraiment une mobilisation mondiale que cette campagne Stop Torture.
Un petit mot juste pour finir, ce qu'on a fait nous localement, ça me remet ça en mémoire. Pour ceux qui étaient au Festival Rock, on a fait plusieurs choses, mais la plus grand public, si on peut dire, au Festival Rock, pas celui de dernier alors en 2015, mais celui de 2014. Malgré la pluie, parce qu'il avait plu à ce festival-là, malgré la pluie, et grâce à l'aide efficace de Clarisse, qui est à côté de moi et qui avait beaucoup travaillé, on a fait signer des gens sur un grand drap où il marquait effectivement Stop Torture
On avait fabriqué une espèce de tatou.
Voilà.
Stop Torture, voilà. Attention.
Ah, voilà. Tu avais assuré ce jour-là.
Voilà. Et on a envoyé le compte-rendu de l'opération Amnesty à Paris, bien sûr. Ça a été joué en différentes actions des différents groupes. Donc, tout ce que vous avez fait, enfin, les gens qui étaient au Festival Rock et qui nous écoutent là aujourd'hui, en 2014, si vous êtes venus sur notre stand et si vous avez participé, bah, c'était un soutien par rapport à cette campagne-là. Encore une fois, bien évidemment, on aimerait en obtenir encore plus que ce qu'on vous a dit là. Bien sûr que le sujet de la torture n'est pas terminé pour autant et qu'on y reviendra, malheureusement. Mais encore une fois, on obtient des choses. Alors,
maintenant, je vais parler là du travail des enfants. Les enfants qui travaillent pour nos smartphones. Amnesty vient de sortir le 19 janvier 2016, c'est pas vieux, un rapport concernant ce sujet. 50% de la production mondiale de cobalt vient de la RDC, République démocratique du Congo. La demande croît de 5% chaque année, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car le cobalt sert à fabriquer les batteries en lithium-ion, qui se trouve dans tous les matériels électroniques portables, tablettes, ordinateurs portables, mais aussi voitures électriques. Donc voilà les conditions dans lesquelles se trouvent les enfants, et des adultes aussi, dans les mines de cobalt. Ainsi, les creuseurs travaillent pieds et mains nus avec un burin et un marteau, sans casque ni masque. Or, la poussière de cobalt est extrêmement toxique et son inhalation peut entraîner des maladies pulmonaires mortelles. Dans les mines artisanales clandestines, les tunnels sont meurtriers. Et c'est ainsi que lorsqu'il y a des morts, ils ne sont souvent pas rendus à la famille, ils restent dans les tunnels écroulés. En 2015, au moins 80 mineurs sont décédés. Les enfants employés dans ces mines se retrouvent à travailler souvent plus de 12 heures d'affilée, restant parfois 24 heures au fond de la mine. Ils travaillent par forte chaleur ou sous la pluie et portent des sacs allant de 20 à 40 kilos. Sans vêtements de protection, ils tombent malades et risquent leur vie tous les jours pour gagner entre 1 et 2 dollars la journée. Ils se font souvent taxer par la police. Ils ne dénoncent pas ce racket car leur travail est illégal. Alors on peut interpeller les grandes marques de téléphone sur Twitter en s'adressant à Electronics, Microsoft, Samsung, Huawei, Wikimobile, Sany et Lenovo.
Le plus simple, je pense, c'est que les gens ils aillent sur le site d'Amnesty.
Oui, je crois. Oui, effectivement.
Parce qu'il y a un lien direct pour pouvoir tweeter. Quoi. Et il n'y a pas besoin d'avoir un compte Twitter. Vous pouvez tweeter même sur compte
Vous allez sur amnesty.fr et vous regardez au niveau des campagnes et des actions, vous avez le sujet.
Et vous avez juste à cliquer et vous pouvez envoyer votre petit message. Il n'y a même rien à faire, juste à cliquer.
À tweeter.
À tweeter.
Tweeter.
C'est vrai que mais je ne suis pas un spécialiste de Twitter, mais quand tu vois combien ils sont payés et combien ils nous vendent les smartphones, mais ça, c'est notre sujet.
Je ne voudrais pas toujours revenir à mon sujet du début, mais c'est les gens qui font les grosses marges bénéficiaires sur les smartphones, par exemple. En ce moment, ils sont à Davos. Voilà.
Ah ouais.
Ben oui. Rien n'arrive jamais par hasard.
Tout à fait.
Donc voilà.
Moi, je voudrais vous annoncer une très bonne nouvelle quand même, une nouvelle que nous attendions depuis des années. La famille d'origine originaire de Mongolie, qui est sur Évreux, la famille Bassan, son statut vient d'être régularisé cette semaine.
Et ça, il y a beaucoup de joie parmi les gens qui étaient du comité de soutien.
Oui. Dont Amnesty Évreux, on a participé à l'action pour eux.
C'est occupé du cas de cette famille. Et vraiment, on est très heureux pour eux.
Et tu n'étais pas, ma marraine, toi
Si, je suis marraine.
Il me semblait que tu étais marraine. Il me semble parce que j'ai... Et je me rappelle très bien.
Et l'aide aussi du secours catholique qui leur a permis d'avoir un logement.
Sûrement.
Ils avaient à l'époque, enfin toujours d'ailleurs, des enfants très jeunes, je ne sais plus quel âge ils avaient, de petites filles.
Alors maintenant, la petite est au CP.
Voilà.
Et la seconde est en moyenne section maternelle.
D'accord. Et c'est des enfants qui pourront enfin vivre une scolarité apaisée et tranquille chez nous. Donc, tant mieux pour tout le monde. Et puis, un petit message personnel pour Daniel Grancher aussi, je crois, du CFED, qu'on connaît bien et qui s'est aussi beaucoup investi sur le dossier. Oui. Sans doute, c'est celle qui a fait le plus gros travail par rapport à ce dossier. Ça ne retire rien au mérite des uns et des autres. Mais si, Daniel, tu nous écoutes ce soir, eh bien, écoute, chapeau, merci. Et encore une fois, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses.
Et c'est vrai qu'une bonne nouvelle proche de chez nous,
une bonne nouvelle aussi. Hébroïcienne est une bonne nouvelle par excellence.
C'est une bonne nouvelle, comme toutes les bonnes nouvelles, mais c'est vrai que ça nous touche quand même.
Oui, forcément. Quand ça touche des gens qu'on connaît, c'est autre chose que quand ça touche des gens qu'on ne connaît pas directement.
Tout à fait.
Je crois que Claire-Lise avait un petit mot à vous dire sur la suite, non ?
Ah oui,
si.
Alors...
Claire-Lise te dit de quoi il me parle, mais de quoi il me parle. Mais non, on s'était mis d'accord à l'avance, t'inquiète pas.
Je commence. Elle mesure 166 cm environ pour 58 kg effectifs. Correctement vêtue, elle a une hygiène parfaite. Les seins sont totalement développés et formés. Le système pileux des aisselles et péri-vulvaire est rasé, mais il est manifestement bien développé et recouvre totalement les grandes lèvres. L'examen oriente l'individu vers un âge plus avancé que l'âge civil. Fermeture des guillemets. Le 25 mai 2014, le public du Festival de Cannes découvrait sur grand écran, dans le court-métrage Aïssa de Clément Tréhin-Lalanne, ce que vivent des mineurs étrangers isolés lorsque la justice française cherche à reconnaître leur âge. Dans ce film, qui s'inspire de situations réelles, l'actrice Manda Touré incarne une Congolaise en situation irrégulière, examiné 8 minutes durant pour prouver sa minorité. Dans la réalité, c'est probablement la pratique la plus décriée en ce qui concerne l'accueil des immigrés en France. Car en France, il y a des mineurs qui arrivent au milieu des migrants, des mineurs isolés étrangers, c'est comme ça qu'on les appelle. Certains n'ont plus de papiers, ou quand ils ont des papiers, la justice met en doute leur âge réel. Donc il y a une pratique qui est systématiquement utilisée et qui est très controversée et pourtant pratiquée sur près de 9000 étrangers isolés arrivés chaque année sur le territoire français. C'est la pratique des tests osseux. Et cette pratique, malheureusement, elle est entrée dans la loi par une procédure, la procédure du nom de la ministre Rossignol. Ça donne pas envie de chanter. Et c'est passé, en fait, au Parlement français le 27 novembre 2015, soit quelques jours après les attentats, ouais. En plein état d'urgence.
Ouais, un petit vote discret. Voilà, un petit vote discret, quoi. On n'en parle pas trop, puis on vote.
Voilà. C'est quelque chose qui existe déjà, mais qui est maintenant dans le...
Entre 3 et 4 heures du
qui
matin.
Qui est rentré dans la loi et qui, normalement, devrait se faire en dernier recours, quand vraiment on ne peut pas savoir l'âge de la personne. Sauf qu'en fait, souvent, c'est la première chose qui est faite et donc il s'arrête à ça. Donc les tests osseux consistent en une radiographie de la main et du poignet gauche. Et si le sujet ne possède plus de cartilage de croissance au doigt, ça veut dire qu'il a atteint la maturité osseuse équivalent plus ou moins à l'âge de 18 ans. Ces tests osseux sont considérés par le commissaire aux droits de l'homme, par les associations d'avocats, de magistrats, par le comité d'éthique de la médecine comme une aberration, car c'est une expertise médicale non fiable qui statue sur l'avenir de jeunes mineurs isolés. S'ils sont décrétés mineurs, ils sont pris en charge par l'État. Si vous êtes mineur, sans personne autour de vous, c'est l'aide sociale à l'enfance qui prend en charge les enfants en France. Mais s'ils sont majeurs, mais en fait, ils deviennent expulsables. Dès l'année dernière, hein, il y a les réseaux d'éducation sans frontières en France qui ont dénoncé les tests osseux. Et nos collègues de RESF 27 appelaient à manifester dès octobre 2015 contre les tests osseux. Malheureusement, ils sont applicables dans les dispositifs de la loi. Et la préfecture de l'Eure ne se gêne pas pour en faire passer encore cette semaine contre un jeune homme de 16 ans qui est arrivé avec des migrants, qui dans son périple en passant par la Turquie a perdu la trace de sa maman et qui est arrivé en France sans logis. Donc il cherche à aller au 115. Quand il va au 115, on lui demande d'abord de s'adresser à la police. À la police, il n'a pas de papier. Tiens, bon, et ben en fait, on lui a fait faire un test osseux. Et donc, il a. D'après les tests osseux, on pense qu'il a 19 ans. Donc, il a une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Bah oui, parce qu'il devient majeur.
Ouais. Et c'est pas, je dirais pas son prénom, mais c'est pas un cas isolé. Ils sont 9000 en France tous les ans. Voilà. Donc c'est vrai que le réseau d'éducation sans frontières travaille beaucoup pour essayer de trouver des solutions et d'aider ces jeunes à prouver leur âge réel, parce que des fois, en prenant le temps d'examiner leurs papiers, de demander des preuves dans leur pays d'origine, on arrive à prouver leur âge réel. Mais parfois, quand ils sont sans papiers et devant la mauvaise foi des autorités, malheureusement, ils peuvent être déclarés expulsables.
Amnesty aussi, j'ai pas vu d'informations récentes par rapport à ça, mais avait protesté de toute façon aussi avec les autres organisations qu'a cité Clearlise, avait protesté aussi par rapport à l'utilisation des tests osseux en disant que de toute façon c'était une méthode qui était absolument pas fiable et qui était en fait assimilable à quelque chose de dégradant pour l'individu. Donc Amnesty a demandé le retrait, malheureusement sans succès, le retrait pur et simple de ce genre de test.
Et puis, tout à l'heure, je vous parlais de confiscation de biens. Maintenant, on parle de tests osseux, de description de... J'avais entendu la description au début, c'est quand même dégradant de décrire quelqu'un comme ça.
Je me demandais bien où tu voulais en venir,
d'ailleurs. Ça me fout les miquettes, pas vous. Voilà.
Ah oui.
Bien, voilà. Donc, c'était le coup de gueule de Claire Lise. Sabine n'est pas avec nous aujourd'hui, donc ce soir, donc, c'était le coup de gueule de Claire Lise.
Ça me laisse sans voix. Ça.
C'est normal, dans le sein de, au sein
d'un. Tu connaissais pas l'expression ça me fout les miquettes. Ouais.
Hein ah, bah, non. De, c'est quoi cette expression normande?
Au sein de Mystie Évreux, il y a toujours des femmes qui poussent des coups de gueule. C'est bien, c'est bien. On aime bien les femmes qui protestent.
On aime bien les femmes en général. Même.
Oui, bien évidemment. Renan, t'avais pas une bonne nouvelle ou deux? On en avait parlé tout à l'heure. Si, Renan a toujours des bonnes nouvelles.
Bon, une bonne nouvelle par rapport à la Grèce. L'union civile autorisée pour les couples homosexuels. La loi du 22 décembre 2015, adoptée par le Parlement grec, marque un changement positif dans la politique du pays à l'égard des couples homosexuels. Oh, j'ai du mal. Ils peuvent désormais devenir partenaires dans le cadre d'une union civile qui leur accorde certains des droits dont bénéficient les couples mariés.
Voilà. Voilà, donc ça évolue quand même. On va s'écouter quelques secondes de musique. On n'écoutera peut-être pas tout le morceau, mais quand même.
C'est parti!
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International Évreux pour son émission mensuelle. On vient d'écouter un morceau qui s'appelle Zoo Station, un morceau d'un groupe qui est membre et soutien d'Amnesty depuis très très longtemps et qui s'appelle U2, vous l'avez peut-être reconnu. Voilà. On voulait. Françoise voulait vous parler d'un sujet. Ah non, on avait dit qu'on faisait quoi?
Ronan.
Françoise,
Ronan.
Moi, c'est pareil. Moi, c'était j'avais Ronan. Une petite action.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'action.
Un petit
ce
appel
soir.
À.
Donc, vas-y pour ton action.
À l'action, donc ça se passe en Floride. Grâce refusée et date d'exécution fixée. Michael Lambris n'a pas obtenu de grâce et son exécution est prévue pour le 11 février. Âgé de 23 ans lorsqu'il a été condamné à mort en Floride en 1984, il a aujourd'hui près de 56 ans. Il continue d'affirmer qu'il a agi en état de légitime défense. Donc si vous êtes intéressé par cette action-là, comme d'habitude, vous envoyez un petit mail de notre adresse.
Vous envoyez vos coordonnées.
Tout à fait.
Sur le mail d'Amnesty Évreux, qui c'est qui est, Ronan? À chaque fois, il hésite.
Non, et je voulais te poser la question avant, c'est amnesty.evreux@gmail.com.
C'est bien, Ronan.
Voilà, donc vous envoyez un petit mail de
cet intéressé. Donc vous envoyez vos coordonnées, on vous renvoie l'action. Et voilà.
L'action et même la lettre faite.
Vous avez simplement à faire un copier-coller, à renvoyer le tout par mail ou par la poste, enfin ce qui est indiqué sur l'action à faire.
Là, c'est simple, il n'y a que par mail.
Et on vous rappelle que dans tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui sur les avancées qu'on obtient, etc., etc., chaque action compte. Il n'y a jamais d'action inutile.
Par exemple, dans la campagne 10 jours pour signer qu'on a fait en décembre, il y a eu 3 millions d'actions dans le monde qui ont été faites. En France, il y en a eu 500 000.
Record battu.
Autrement dit, 500 000 signatures. Alors, 270 000 sur Internet et 110 000 des signatures, pétitions, papier.
Dont les gens d'Evreux qui sont venus signer pour nous.
Ah oui, beaucoup, beaucoup. Bon, alors voilà les mots qu'ont prononcés des prisonniers après avoir reçu nos lettres. Exemple, Albert Hook Fox, ce prisonnier américain, emprisonné depuis de longues années, eh bien, a été enthousiasmé d'avoir reçu 2000 lettres. Il nous l'a écrit, à Amnesty. Kostas, en Grèce, qui nous a remercié pour avoir démasqué les attaques homophobes dont il avait subi les conséquences. Ensuite, en Birmanie, il y a une jeune femme qui est emprisonnée actuellement et elle nous a dit « Vos lettres sont de grands cadeaux, ça nous donne une grande force pour moi et pour les étudiants et pour l'avenir de la Birmanie. » Donc, ils attendent évidemment leur libération, on souhaite que ça arrive bien vite.
Voilà, on vous tiendra au courant, bien sûr, de la suite de cette campagne, comme on le fait tous les ans, hein, de ce qu'on va obtenir au fil du temps, parce que pour l'instant, c'est des premières réactions. Mais c'est une campagne encore à chaud, puisque c'est la dernière d'envergure d'Amnesty. Et il y a une Françoise qui me tend un papier en me montrant quelque chose, et je me disais, mais qu'a-t-elle donc écrit? Oui, une information aussi par rapport à l'utilité d'agir. On est très content de vous donner une information régionale aussi. Des lycéens de Verneuil, du lycée Porte de Normandie à Verneuil, viennent de créer la première antenne jeune. Alors, c'est un groupe de militants pour Amnesty parmi les lycéens. La première antenne jeune qui s'est créée dans le département de l'Eure, donc on est très content. Elle est sous la responsabilité de notre groupe, mais ce sont eux qui sont à l'initiative. Ce sont eux qui vont commencer à mener leurs premières actions dans les mois qui viennent. Et donc, on les a rencontrés, bien sûr. Et on est très content de cette initiative qui est due à une lycéenne en particulier. Et voilà, qui montre que tout le monde se mobilise pour les droits humains, pour la justice dans le monde, pour un monde meilleur, pour tout ce qu'on vous dit à longueur d'émission, et que des lycéens de première à Verneuil-sur-Avre ont décidé aussi de faire un bout de chemin avec nous et pour nous. Et ça, c'est effectivement une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et
on les remercie.
Oui.
On va peut-être, l'émission s'approche tout doucement de son terme, on va parler de notre actualité locale. Alors, parmi l'actualité locale, quoi qu'on a encore quelques minutes quand même, quand on regarde la pendule, ça va, on n'est pas...
Ouais, mais après, il faut qu'on aille à barbecue.
Oui, après, on s'en va, mais on va vous le dire en dernier. On va vous annoncer ça en dernier, parce que voilà. Alors, notre actualité locale, on va commencer par le plus loin, tiens. Alors, le plus loin, c'est dans le temps, juste le mois qui vient, quand même pas très loin. C'est le dimanche 21 février. Le dimanche 21 février, il y a la compagnie Arc en Seine, une troupe d'amateurs d'aviron. Qui est fait comme elle l'a fait l'an dernier pour la deuxième fois, qui joue une pièce. C'est une pièce de théâtre comique qui s'appelle Histoire de couple. C'est une suite de sketchs. Alors n'allez pas chercher des messages pour Amnesty dans ces sketchs. Hein. C'est purement des pièces pour le plaisir, hein, du théâtre pour le plaisir.
C'est en soutien.
Mais ils font ça en soutien, effectivement, à savoir que toute la recette de la représentation, qui a lieu donc le dimanche 21 février à 15h30 à la salle polyvalente d'Aviron. Aviron, c'est juste à côté d'Evreux, hein, c'est pas compliqué. C'est à 2-3 km. 15h30, salle polyvalente d'Aviron. Histoire de couple, présenté par la compagnie Arc en Seine, et pour la somme de 5 euros, donc une somme très modeste, et l'intégralité de la recette est versée en soutien au groupe d'Amnesty Évreux. On vous rappelle qu'Amnesty s'autofinance, que ce soit les groupes, les sections nationales ou l'international, se finance à 100% par le soutien du public et que par déontologie, on ne sollicite et on refuse toute subvention d'État, de partis politiques, d'entreprises, enfin, etc. Donc c'est vous qui nous financez, c'est vous qui nous permettez d'agir. Donc si vous venez au théâtre ce jour-là, le 21 février, 15h30, vous payez 5 euros et ces 5 euros reviennent pour les comptes d'Amnesty Évreux. Vous nous aidez à agir. Et en plus, vous avez passé un bon moment parce que c'était, pour ceux qui étaient là l'année dernière, pour la pièce, c'était une pièce de Fedot.
Oui.
C'était vraiment très drôle et je leur fais confiance, ce sera aussi forcément très drôle le 21 février. Faites de la pub autour de vous. 15h30, salle polyvalente d'Aviron. Voilà, ça c'était à plus long terme. Notre prochaine émission de radio, c'est on avait noté le mardi 23. Donc on se retrouve
Non, on ne l'a pas noté, on le sait.
Oui. Enfin, le mardi 23 février, dernier mardi du mois comme d'habitude, 19h-20h en direct sur l'antenne de Principe Actif. On va remonter dans le temps, on va arriver à samedi prochain. Le samedi, on est le 30.
Le 30 janvier.
On est présent au cadran avec la scène nationale. On fait la fête de la soupe. Donc on fait la soupe à la châtaigne.
Oui, elle est prête.
Elle est prête, la soupe à la châtaigne.
Voilà.
Elle est déjà prête.
Vous allez manger du congelé.
Elle n'est pas prête. Tu ne la fais pas samedi après-midi.
Ah non, moi je serai à la montagne.
Françoise a pris un peu d'avance. Mais vous allez manger une très bonne soupe à la châtaigne. Alors c'est une soirée festive. Là aussi, ce n'est pas une soirée militante. Après la soupe que vous dégusterez à partir de 19h au cadran, il y a un grand bal disco.
19h30,
pardon. Ah oui, 19h30. Il y a un grand bal disco qui doit être à partir de 20h30, puis par contre le bal. Donc sur les musiques des années 70, on vient danser, on vient faire la fête. Hein, c'est une façon de nous rencontrer autrement que sur un lieu militant, mais c'est très, très agréable pour tout le monde, pour vous et pour nous. Et petite info quand même qui concerne aussi la radio, c'est que la radio sera présente toute la soirée en direct sur le lieu pour retransmettre la fête de la soupe. Et donc, on va sûrement intervenir, nous dire un petit mot sur l'antenne de Principe Actif pour dire pourquoi on est là, enfin, etc. Je pense qu'on sera invité à dire 2-3 mots. Et vous nous trouverez donc aussi sur l'antenne de Principe Actif samedi prochain. Et puis la dernière info, la dernière brève.
C'est tout à l'heure.
Tout à l'heure. Là, quand on va quitter l'antenne, on va se précipiter au cadran aussi. Décidément, cette semaine, on fréquente le cadran. On va se précipiter au cadran parce qu'on est partenaire aussi de la fête de la scène nationale. Merci à eux, encore une fois, de nous offrir si gentiment leur concours dès qu'on a un sujet en commun. Et là, c'est un sujet plus militant. C'est sur les disparus de Ciudad Juárez. C'est sur le Mexique. Cette ville où les femmes, particulièrement les femmes, disparaissent, sont violées, sont tuées de plusieurs milliers depuis une quinzaine d'années. Et une justice et une police qui, jusqu'à présent, a manifesté beaucoup, beaucoup, beaucoup de lenteur, on dira ça gentiment, pour essayer de trouver les coupables, pour essayer de savoir ce qui s'y passe et pour essayer de remédier à ces atteintes fondamentales aux droits humains et aux droits des femmes à Ciudad Juárez. Donc c'est une pièce qui s'appelle Barbecue, qui parle du sujet. Donc à 20h30, là tout à l'heure, si vous avez encore quelques minutes, c'est pas trop tard, hein, vous pouvez toujours venir nous voir. Et puis on tient un stand, bien sûr, d'informations sur le Mexique en général et sur présentation générale d'Amnesty. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver donc ce soir, là tout à l'heure, 20h30 au cadran pour la pièce barbecue, samedi 30 pour
la fête de la soupe.
Voilà.
On va danser le disco.
Voilà. Et le 21 février pour
une pièce de théâtre.
Et en attendant, n'oubliez pas de signer toutes les pétitions,
voilà.
Celles d'Amnesty, et puis celles des autres aussi.
Celles des autres, mais bon, on va quand même commencer par la charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Oui. On vous conseille quand même de signer en ligne sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr, et puis de nous envoyer vos mails pour les actions qu'on vous propose à chaque émission, n'hésitez pas.
Gardez les yeux grands ouverts, parce qu'il y a du boulot.
Les yeux et les oreilles aussi.
Ouais. Il y a du boulot et on vous signale effectivement, on commence l'année dans un climat qui, y compris en France, est un climat qui se détériore grandement par rapport aux droits fondamentaux des uns et des autres. L'état d'urgence, on ne vous en a pas parlé là ce soir, on vous en reparlera dans les mois qui viennent. L'état d'urgence en France, c'est quand même un sujet préoccupant. Ça fout les biquettes, comme dit effectivement Claire Lise. Donc, restez proches de nous, merci.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit.